À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il s'agit du bienheureux Luigi Orione. C'est un bienheureux moderne qui est mort en 1940 et qui a été béatifié 40 ans plus tard. C'est un prêtre, un apôtre des plus pauvres, vraiment un prêtre séculier de grand cœur, hein? Et je suis sûr qu'il connaissait bien la parabole qui est lue aujourd'hui aux messes, d'un bout à l'autre de l'église, à la surface de la terre. Parce que vous savez que les catholiques sont assez nombreux quand même, qui vont à la messe tous les jours, lisent toujours l'écriture sainte. Souvent on dit, les catholiques connaissent pas la Bible, seulement les protestants. Bien, on lit ça aujourd'hui, c'est de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 16. C'est la fameuse parabole de Lazare et du riche. Jésus disait cette parabole, vous connaissez ça. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, dit Jésus, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi. » Et envoie Lazare trempé dans l'eau, le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Et Jésus continue en disant qu'Abraham lui a répondu, « Mon enfant, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. Depuis, un grand abîme a été mis entre vous et nous. Un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. » Alors le riche réplique, « Eh bien, père, » il parle à Abraham, « je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Et là, c'est extraordinaire, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. En somme, si quelqu'un ressuscite. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Une parabole troublante parce que, sommes-nous vraiment convaincus de ce que nous dit Jésus ressuscité d'entre les morts? Le bienheureux Luigi Orione lui a compris. On a le témoignage, d'ailleurs, d'un écrivain italien assez connu, Ignazio Silone. C'était au matin du 13 janvier 1915, il y a eu un tremblement de terre épouvantable qui avait pour centre Avezzano. Ça a dévasté la région de la Marsica. Ça, c'est dans les Abruzzes. Les Abruzzes, c'est dans les montagnes, les Apennins, là, à peu près à la hauteur de Rome, si vous regardez la carte, mais du côté de l'Adriatique, hein, les Abruzzes. Puis, il y a de la neige qui couvre tous les villages qui sont disséminés contre les montagnes. Puis, dans la plaine aussi, du Fucino. Et les maisons se sont écroulées comme des châteaux de cartes, et en quelques minutes, la région compte des centaines de morts, et les survivants sont terrorisés, d'autant plus que, quand la nuit vient, il y a des loups, oui, des loups affamés qui descendent des montagnes. Un garçon de 15 ans a vu le toit de la maison ensevelir tous les siens, puis il est, avec un de ses frères, le seul de sa famille à survivre, et son nom, c'est Secondo Tranquilli, mais qui un jour va devenir un auteur célèbre dont je viens de vous parler, connu sous le nom de Ignazio Silone. Et c'est lui qui nous a fait le récit de cette catastrophe épouvantable du 13 janvier 1915. Et c'est là qu'on va faire la connaissance du bienheureux Luigi Orione, ce prêtre, cet apôtre de tous les délaissés, qui est mort, comme je vous ai dit, le 12 mars 1940. Voici ce qu'écrit ce bon écrivain. Un matin gris et glacé, après une nuit d'insomnie, j'assistis à une scène assez étrange. Un petit prêtre sale et en piteux état, avec une barbe de 10 jours, imaginez une barbe de 10 jours, circulait parmi les ruines entouré d'une bande d'enfants et de garçons restés sans famille. Il cherchait en vain un quelconque moyen de transport pour conduire ces jeunes à Rome. À ce moment, arrivent et s'arrêtent 5 ou 6 belles automobiles. C'est le roi, avec sa suite, qui visite les communes dévastées. À peine ces grands personnages sont-ils descendus de voiture, et se sont-ils éloignés, que le petit prêtre commence à charger sur l'une d'elles les bambins qu'il a recueillis. Mais comme c'est à prévoir, les carabiniers, les policiers, restés pour garder les autos, s'y opposent. Et parce que le prêtre insiste, naît une vive discussion, à l'italienne j'imagine, qui attire l'attention du souverain en personne, devenu alors tout à fait timide. Le prêtre s'avance, le chapeau à la main, il demande au roi, pour quelque temps, la libre disposition d'une de ses voitures afin de transporter à Rome les orphelins, ou au moins jusqu'à la gare la plus proche. Et vu les circonstances, le roi ne peut pas ne pas consentir, évidemment. Et avec d'autres, raconte cet écrivain qui avait 15 ans dans ce temps-là, avec d'autres, j'observe la scène avec surprise et admiration. À peine le petit prêtre s'est-il éloigné avec son chargement de garçons que je demande autour de moi, qui est donc cet homme extraordinaire? Alors une vieille qui lui a confié son tout jeune neveu me répond, un certain Don Orione, un prêtre plutôt étrange. Oui, souvent, hein, les saints sont étranges. Étranges, extraordinaires même. Luigi Orione l'a été sans arrêt par sa charité. Lui qui réclamait, et je le cite, un amour très pur pour les enfants, les orphelins et les abandonnés. L'amour du prochain, mais plus spécialement des plus pauvres et des plus douloureux, de ceux que l'on rejette, de ceux que l'on regarde comme des déchets et le rebut de la société. L'amour des travailleurs les plus humbles, des infirmes, des incapables, des abandonnés, des plus malheureux, des méprisés. Amour et compassion pour tous, les plus éloignés, les plus coupables, ceux qui sont nos pires ennemis, car pour tous, il y a l'amour infini du Christ. Il disait encore, seule la charité sauvera le monde. Hein, écoutez bien, seul l'amour sauvera le monde, pas la souffrance. Non, l'amour même au creux de la souffrance. Don Orione, Don, c'est comme Monsieur l'abbé. Don Orione vient au monde le 23 juin 1872 à Ponte Curone. Un gros village entre Voghera et Tortona. Tortona, c'est une ville où il y a l'évêque, ça. À la limite de la province d'Alessandria, dans le nord. C'est le 4e fils de Vittorio Orione et de Carolina Feltri. Et on lui donne le nom d'un de ses frères morts tout jeune, Luigi, Louis en d'autres termes. Et on ajoute à ce prénom celui de Giovanni, car il est baptisé le 24 juin, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le patron du Québec. La famille est pauvre, d'une pauvreté honnête, une pauvreté discrète, dira plus tard le bienheureux Orione lui-même. Son père exerce le métier de paveur de route. C'est une tâche rude, ça, qui l'expose à toutes sortes d'intempéries. C'est une tâche aussi où on se fatigue à porter des pierres. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque, hein, et à se tenir à genoux sur la terre humide. Et Monsieur Orione, bien, vit surtout éloigné de sa famille. Puis toute l'éducation des fils repose sur la mère, qui est une femme énergique. Luigi, qui est d'un tempérament ardent, ses camarades l'ont surnommé le chat sauvage, et qui aime jouer aux quilles avec passion, reçoit à l'occasion des rossés de sa mère, hein. Comme il dit plus tard, elle m'a dressé. Aujourd'hui, on frappe plus les enfants et c'est pas permis. Hein. La famille habite une maison très simple qui était louée. Et puis les Orione c'est sûr et certain, ne manque pas du nécessaire. Mais chacun doit travailler, puis il faut économiser, et Don Luigi Orione déclare un jour plus tard, « Ma mère m'avait eu, moi, le quatrième fils, avec les habits de mon premier frère. » C'était comme ça, moi aussi, j'étais le quatrième fils, et je portais, quand j'étais jeune, les vêtements de mes frères. Alors, porter les habits de mon premier frère, dit-il, qui avait 13 ans depuis que moi. Et elle les avait déjà fait servir aux deux autres qui me précédaient. Cette pauvre vieille paysanne se levait à 3 heures du matin, raconte-t-il, pour travailler. Jamais elle n'était à rien faire. Elle battait elle-même la faux pour couper l'herbe sans la porter à l'aiguiseur. Elle faisait de la toile avec le chanvre qu'elle filait elle-même. Et ça vous donne une idée, les jeunes, comment les gens travaillaient dans ce temps-là, les mères de famille surtout. Et Don Orione raconte que lorsqu'elle est morte, nous lui avons mis sa robe de noces qui remontait à 51 ans. Elle l'avait fait teindre en noir et elle avait encore bel aspect. C'était son plus beau vêtement. Comment les pauvres s'habillaient. Cette femme, qui ne sait ni lire ni écrire comme bien des gens à cette époque, ça existe encore aujourd'hui. Hein. On sait qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est comme ça dans tout l'Occident. Faut pas s'en faire. Trop. Il faut corriger ça autant que possible. Alors, cette femme apprend cependant beaucoup de choses à ses enfants, tant par son exemple que par ses conseils. Et si M. Orione, lui, ne pratique pas, on disait dans le temps, c'est un libéral, Carolina, elle possède une forte piété, puis elle donne à ses fils une solide éducation chrétienne, et aussi, elle a la joie de voir son Luigi, plus jeune, aller souvent dans une chapelle au milieu des champs. Il y a des chapelles comme ça dans le milieu des champs. On avait ça ici au Québec aussi. Je me souviens, il y avait des chapelles un peu partout. Et puis, il va lui porter des fleurs à la Madone. Et cet enfant qui manifeste très tôt son amour des pauvres aussi, ça console sa mère. Ça. Un jour, il revient trempé à la maison sans le parapluie qui lui avait été confié. Puis il dit à sa mère, « Je l'ai donné à un vieux qui était sans abri, tandis que moi, j'avais de bonnes jambes pour courir. » Un prêtre, Don Michele, aumônier de l'hôpital, le prend aussi avec lui lorsqu'il va visiter les malades, et il transmet ce prêtre la charité qui habite son cœur, il la dépose dans le cœur du petit bonhomme. Ce prêtre, d'ailleurs, va exercer sur ce garçon une profonde influence, hein, tout comme un autre prêtre, Don Francesco Milanesi, qui est très important dans la vie de Don Orione. Et cet enfant qui les admire va vouloir leur ressembler en devenant prêtre lui aussi. Et c'est comme ça que la vocation souvent se transmet de prêtre à jeune enfant. Je le signale parce que les prêtres, hein, qu'ils le sachent bien, ceux qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent, ont souvent une très grande influence sur les jeunes. L'Église transmet, je crois, la vocation surtout de prêtre à jeune. Ce sont les prêtres qui ont ce charisme, ce don. Alors, le bienheureux Luigi Orione a 13 ans. Il n'est pas encore bienheureux. Il a été béatifié, comme vous savez, bien des années après sa mort, mais je l'appelle déjà bienheureux parce qu'il a déjà une âme de saint tout jeune, à 13 ans. Il n'y a pas tout à fait 13 ans. Et il voit un jour passer un frère capucin. Les capucins, vous vous demandez ce que c'est, les jeunes, vous n'en avez jamais vu, on n'en voit plus. C'est fini, ça. Ils sont là, mais on les voit plus. Ils sont habillés comme nous. C'est des gens qui portaient à l'époque un grand vêtement brun avec un grand capuchon. Et puis, ils avaient les cheveux coupés, ça faisait une couronne de cheveux. Ils étaient nu-pieds ou en sandales. Ils avaient des barbes. Alors, ils voient passer un capucin qui quête et, comme il raconte dans une lettre, il était modeste et recueilli. Le rosaire à la ceinture. Ils portaient des grands chapelets, attachaient leur ceinture, ces gens-là, les capucins. Il dit, « Je courus alors auprès de ma mère et je lui dis, « Je veux moi aussi me faire frère. » Et ce frère a demandé à ma mère de me laisser aller avec lui. Alors Don Milanesi, le particulier qui s'intéresse aux jeunes garçons, s'intéresse à cette proposition. Puis, on décide que l'adolescent tout jeune là, va aller chez les mineurs, les frères, on les appelle comme ça, les petits, au fond, les petits frères. Mineurs, c'est ça que ça veut dire, les petits frères, réformés de Voghera. Il quitte donc la maison le 4 septembre 1885. Il pense que le couvent sera pour lui le paradis, mais hélas, en arrivant, un frère déjà âgé lui demande d'où il vient, puis il dit de Pontecorone.
Ah, du pays des goitreux,
ceux qui ont des goitres, hein, des gros coups, là. C'est le capucin qui lui dit ça. Et puis il se met à déblatérer sur les compatriotes de Luigi Orione. Alors Luigi éprouve une impression si pénible de ses réflexions désobligeantes qu'il a le goût de reprendre son chapeau puis d'abandonner à la fois le couvent puis sa vocation. Mais heureusement survient le père gardien qui avait de douceur puis de bonté. Et Luigi reste, mais pas pour longtemps d'ailleurs, parce que le jeudi saint 1886, l'année suivante, moins d'un an plus tard en effet, tandis que l'on transporte le Saint-Sacrement au reposoir, il perd connaissance, puis se retrouve au lit avec une pneumonie. Bientôt, on s'attend au pire, puis l'on appelle ses parents, tandis qu'un frère apporte déjà dans une corbeille les habits dont on va le vêtir pour l'ensevelir, et c'est alors que Luigi a un songe. Il se voit entouré d'une troupe de jeunes prêtres, parce qu'il va fonder une congrégation, et une troupe de jeunes prêtres revêtus de blanc, et puis il comprend donc qu'il va survivre à sa maladie. Puis un jour, ce songe prophétique va se réaliser, parce qu'en 1928, très longtemps plus tard, comme vous voyez, ses propres clercs, si on peut dire, vont entrer dans ce même couvent que les capucins auront abandonné. Et peu à peu, le jeune malade se remet, mais ses supérieurs lui disent qu'il ne peut rester chez eux parce que la vie franciscaine est trop austère pour lui. Et là, le médecin, d'ailleurs, déclare que le jeune homme devait mourir bientôt parce qu'il y a au cœur des palpitations. Et aussi, Luigi, étant donné tout ça, il retourne chez lui à Pontecorone. Et puis, Don Milanesi, le prêtre, bon prêtre, s'occupe de lui. Il le fait entrer le 4 octobre 1886 dans un collège salésien du Val d'Occo, fondé par Saint Jean Bosco. Je vous en ai parlé lundi en vous parlant de Saint-Dominique Savio, à Turin, près de Turin. Et le garçon prend alors Don Rua, qui est un bienheureux, je vous en parlerai un jour. On voit sa tombe là-bas, comme je vous ai dit, à Turin. Il le prend comme directeur spirituel, puis le matin du 8 décembre 1886, là, à 14 ans, il se consacre à la Sainte Vierge. Ce dont il rêve surtout, c'est de pouvoir se confesser à Don Bosco, puis un jour, il a la chance, là. Il s'est préparé, et à son accusation, il inscrit ses péchés sur 3 petites feuilles. Et puis, le seul péché qu'il n'a pas commis, c'est de tuer. Il s'imagine qu'il a comme... fait beaucoup de péchés. C'est peut-être un peu vrai aussi. Lorsqu'il aborde Saint Jean Bosco, Jean Bosco le fixe longuement. Puis il lui dit, « Donne-moi ces péchés-là, donne-moi ça. » Et Luigi tire donc de sa poche un feuillet qu'il tend à Don Bosco, mais Don Bosco le prend puis le déchire. Il dit, « Donne-moi les autres. » Alors Luigi Orione lui présente les deux autres feuillets, puis Don Bosco les déchire encore. Et maintenant... lui dit Don Bosco, ta confession est faite, puis ne pense plus jamais à ce que tu as écrit et ne te retourne plus pour regarder ton passé. Sois joyeux et nous serons toujours des amis. Et Don Bosco lui sourit. C'était sa confession. Et en 3 ans, Luigi Orione fait 5 années de cours, En 3 ans seulement. Il a 17 ans. Mais le 31 janvier 1888, il a la douleur de perdre Don Bosco, ce prêtre extraordinaire, qui le fascinait. L'année suivante, chacun pense que le jeune homme va se faire salésien, la congrégation fondée par Don Bosco. Mais tourmenté sur sa propre vocation, Luigi Orione, durant une retraite, il passe une nuit à prier et à pleurer auprès de la tombe de Don Bosco qu'il aimait tant. Et il décide finalement de reporter sa demande d'entrer au noviciat. Qu'est-ce qu'il va être? Prédiocésain? Particulier, quoi, ou salésien. Il a réclamé à Dieu 3 signes, c'est assez surprenant, pour savoir s'il doit aller au séminaire de la ville de Tortona, et devenir particulier. Et puis, il faudrait qu'il soit accepté sans avoir fait la demande, et puis il faudrait qu'on lui donne une soutane qui lui va à la perfection sans qu'on ait pris ses mesures. Il est jeune, il fait des demandes comme ça. Puis, surtout, il voudrait la conversion de son père. Or, les 3 signes lui sont accordés, et le voilà donc séminariste, modèle, avec une bonne soutane, qui prie, communie chaque jour, jeûne, étudie et même refuse d'aller chez lui en vacances. Cependant, en 1892, son père, converti, meurt. Comme la pension de Luigi ne peut pas être payée au séminaire par son père, mais ses supérieurs lui confient la charge de gardien de la cathédrale pour qu'il fasse quelques sous, quelques livres, et ainsi il peut gagner 22 livres par mois. Il pourra continuer ses études. Un matin, dans la sacristie de la cathédrale, c'est assez extraordinaire, il n'est pas encore prêtre, là. Il rencontre un garçon qui pleure. C'est un garçon qui a fait du bruit au catéchisme, puis le prêtre, après lui avoir envoyé une bonne taloche, l'a mis à la porte. Alors Luigi Orione le prend dans sa petite chambre pour lui faire reprendre la leçon de catéchisme interrompu. Mais il a tellement bien fait ça que le lendemain, le gamin revient avec des compagnons. Et Luigi Orione met donc à la disposition des jeunes, de ces garçons, la pièce où il vit, puis il s'y livre, et puis il construit même pour eux une balançoire. Et les voilà bientôt 10, puis 50. C'est comme ça qu'il va fonder. Il les divertit. Il leur fait le catéchisme. Mais les chanoines de la cathédrale, c'est des vieux, sont incommodés par tous ces jeunes remuants et bruyants. Et on s'étonne de voir un jeune séminariste qui circule en ville entouré d'une bande de gosses. Cela, aussi à la fin du mois, au lieu des 22 livres habituels, il n'en reçoit que 12. Car, lui dit-on, il s'intéresse plus à ces jeunes fainéants qu'à s'occuper de la cathédrale. Il remplit pas sa job, comme on dit. Et à présent, il conduit les gamins sur une petite place. Il les fait d'abord jouer, puis il les instruit, il les exhorte, il les fait prier. Mais l'évêque de Tortona, qui ne voit plus ces jeunes passer par la sacristie, s'informe de ce qu'ils sont devenus. Alors il apprend ce qui se passe. Il fait appeler Luigi Orione, puis lui offre pour ses gamins son propre jardin. Et c'est comme ça que naît, le 3 juillet 1892, en présence de deux évêques, ce qu'on appelle l'Oratorio Festivo San Luigi. Et pourtant, Luigi Orione n'a que 21 ans, et il lui manque encore 2 années de séminaire pour être ordonné prêtre, et il est déjà un fondateur. Et parmi les gamins qu'il suit, certains lui ont confié « Je voudrais, comme toi, devenir prêtre ». Mais leurs familles sont trop pauvres pour payer la pension au séminaire. Alors pourquoi alors pense Luigi ne pas fonder pour eux une école? Alors il en parle à l'évêque qui sourit, mais qui lui oppose une montagne de difficultés. Et le jeune séminariste Luigi Orione lui demande alors seulement son approbation et sa bénédiction. Et l'évêque lui accorde l'approbation puis la bénédiction. Il pense bien que tout ce projet va sombrer très vite au fond de l'eau. Et on va voir tout à l'heure ce qui va arriver. C'est extraordinaire ce que Dieu s'occupe de ses saints. Alors, il a obtenu de son évêque l'autorisation de fonder un petit collège pour les enfants pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer ça. Alors, immédiatement, Luigi Orione se met à la recherche d'un local. C'est étonnant. Sur son chemin, il rencontre un jeune élève des Salésiens. « Où vas-tu ? » lui demande le jeune garçon. Il répond « Ouvrir un collège. » « Alors, je m'inscris, mais où ?»« Je suis à la recherche d'un local, » dit le prêtre. Or, le père du garçon dispose justement d'une maison qu'il veut louer. « Alors, quel prix voulez-vous ? » Il dit « 400 livres, 400 livres par année, les avez-vous ? » Et puis... Le bienheureux Luigi Orione, qui a une grande confiance en Dieu, il dit « N'ayez aucun doute, la Providence va y penser. » Et le marché conclut, puis un peu plus loin, il y a une vieille femme qui l'interpelle. Elle dit « Mais que faites-vous dans ce coin ?» Il dit « J'ouvre un collège. »« Un collège ? Alors je vous demande de prendre mon neveu. Combien me demanderez-vous ? » ?»« Oh, il dit très peu ce que vous me donnerez. » Ben, si je vous donne 400 livres, vous le garderez combien de temps ?» Il dit « Pendant toutes ses études. » Alors, la vieille femme lui remet aussitôt les 400 livres que Luigi porte à celui qui lui a loué la maison, 400 livres. Et de retour à la cathédrale, il est appelé chez l'évêque. Et l'évêque lui dit, « J'ai changé d'idée, je te retire ma bénédiction. Je ne veux rien savoir de ton collège. » Et Don Luigi Orione lui répond, « Je suis navré, monseigneur, D'autant plus que tout est arrangé, et puis il raconte ce qui s'est passé. L'évêque, abasourdi, lui dit « Oh alors, Luigi, agenouille-toi, je te rends ma bénédiction. » Et le bienheureux Luigi Orione fixe aussitôt la rentrée au 16 octobre. Ce sera un collège, puis un séminaire pour vocation de pauvre, vocation de pauvre. Arrivent 26 garçons de famille qui n'ont rien. 26. Orione leur enseigne l'italien, parce qu'on parle de patois, évidemment, de piémontais. Puis, il y a deux clercs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêtres encore, qui sont envoyés par le recteur du séminaire, et eux, ils enseignent les autres matières. Luigi Orione n'a pour lui ni chambre, ni bureau. Il dort la nuit sur un banc de la cuisine. Ça me rappelle, j'ai habité comme ça dans une maison avec l'abbé Robert Lévelin quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal, et il était comme ça, il couchait dans le corridor par terre sur un tapis. Lui qui venait d'un château. Il avait 7 pièces à sa disposition dans le château où il a grandi, près du château de la comtesse de Ségur, en France. En 1894, il faut chercher donc un local plus vaste, un ancien couvent inhabité. Et certains ne se gênent pas pour calomnier, évidemment. Pour discréditer le jeune fondateur, il y a toujours du monde qui sont prêts à calomnier et à discréditer ses dons agréables, hein, ses dons agréables. Et n'empêche que quand il le voit à l'œuvre, l'évêque l'autorise dès juin 1894 à prêcher dans toutes les églises de son diocèse pour son collège. Et là, le 22 décembre de la même année, il l'ordonne sous-diacre. Imaginez, il prêchait, puis il n'était même pas sous-diacre dans le temps, c'était rare, ça. Puis le samedi saint, 13 avril 1895, il lui confère le sacerdoce. L'abbé Luigi Orione célèbre donc sa première messe au milieu de ses jeunes, et par un privilège tout particulier accordé par son évêque, il en revêt alors plusieurs de l'habit religieux. Et ainsi commence, dans le silence, la congrégation qu'il fonde, la petite œuvre de la divine providence. Durant sa première messe, il a demandé au Seigneur 3 grâces. Pour tous ceux qui auraient à approcher de sa personne et de son œuvre, il demande 3 grâces. C'est assez surprenant. On pourrait dire les 3 P, le pain, la paix et le paradis. Et le bienheureux Luigi Orione s'occupe ardemment de ses jeunes. Et dans son diocèse, il exerce encore un apostolat intense parce qu'il prêche, puis il prêche bien, avec son cœur. Il organise des pèlerinages, puis il convertit beaucoup de monde. Il convertit du monde. Il ne se contente pas d'être un fonctionnaire de Dieu, comme dit Drewermann. Un soir d'hiver, il a parlé à Castelnuovo, scrive, il y a de la miséricorde divine, en somme de l'amour de Dieu. Or, il a prononcé cette phrase, retenez bien ça, c'est très beau de la bouche d'un saint. Même si un fils en arrivait à un tel degré de perversion, qu'il mettrait du poison dans l'écuelle de sa mère afin de la tuer, s'il se repent sincèrement de sa faute, il obtiendra le pardon de Dieu. Or, qu'est-ce qui arrive? C'est fantastique, écoutez ça. En rentrant la nuit à pied à Tortona, la ville épiscopale, un homme l'aborde. « Est-ce vous qui avez prêché? Avez-vous parlé de la confession? Croyez-vous à ce que vous avez dit? Car je suis celui dont vous avez parlé. J'ai mis du poison dans l'écuelle de ma mère. Est-ce que je peux encore être pardonné? » Il dit, oui, si vous vous repentez. Alors, sur la route, dans la nuit d'hiver, Don Orione confesse l'homme et lui rend la paix du cœur qu'il avait perdue. Tout jeune prêtre, Don Orione fonde aussi un journal, L'Étincelle, qui en 1898, il y a 100 ans, s'appellera L'œuvre de la divine providence. Un exemplaire tombe un jour sous les yeux de l'évêque de Noto en Sicile, qui passait par la porte, c'est la grande île au sud de l'Italie, où il y a la mafia, comme on sait. J'explique ça pour les jeunes qui seraient peut-être pas au courant, parce que je sais qu'il y a des jeunes de 12, 13 ans et 10 ans qui m'écoutent. Hein. Et cet évêque écrit alors à Don Luigi Orione pour lui demander de venir établir chez lui un orphelinat et un pré-séminaire, c'est-à-dire un petit collège avant d'entrer au séminaire. Peu de temps après, un groupe de ses premiers collaborateurs est envoyé en Sicile, dans cette grande île. Et le 21 mars 1903, Monseigneur Bandi, son évêque, quel drôle de nom pour un évêque, hein, Bandi, B-A-N-D, ça se prononce Bandi, j'imagine, en italien, Il approuve officiellement l'œuvre de la Divine Providence, puis d'autres évêques bientôt l'autoriseront à leur tour. Alors ça s'éteint, hein? En 1906, Don Orione est reçu à 34 ans seulement en audience par Saint Pie X, le pape. Alors il présente au pape sa règle, que le pape approuve, tout en lui demandant de faire quelques petites modifications. Puis de grand cœur, ce pape bénit à la fois le but et l'esprit de son œuvre. Ce qui n'empêche pas ensuite le pape de tirer, c'est assez extraordinaire, de son bréviaire, un bout de papier. Il le tend à Don Luigi. Celui-ci reconnaît alors une lettre. Oui, une lettre qu'il avait écrite il y a longtemps, alors qu'il était simple clerc, n'était pas prêtre, au cardinal Sarto, patriarche de Venise. C'est lui, le cardinal Sarto, qui est devenu Saint Pie X. Il exprimait au cardinal sa désapprobation. Il n'était pas d'accord. Parce que son ami Lorenzo Perosi était alors maître de chapelle de Saint-Marc. Les Perosi, c'est une grande famille de compositeurs et de musiciens. Hein? Saint-Marc à Venise, où on paraît qu'on peut prononcer Saint-Marc de Venise. Et le cardinal Sarto invitait alors le jeune homme, il était assez large d'esprit ce cardinal Sarto, à venir de temps à autre jouer aux cartes avec lui, et même il lui offrait des cigarettes, au grand scandale de Joseph Perosi, le père du jeune Lorenzo. Alors aussi, Don Luigi Orione avait-il écrit et exprimé à l'archevêque, patriarche de Venise, son regret et son désaveu. Alors devenu pape, le cardinal Sarto avait conservé la lettre. Pourquoi? Parce qu'il disait... C'est ce qu'il a dit à Don Orione. Même un pape a fréquemment besoin d'être rappelé à l'humilité. C'est pourquoi je garde toujours ce petit papier avec moi. Et à partir de là, ce ne furent entre ces deux saints, que des rapports d'estime et d'amitié. Alors rapidement, le champ des activités de la petite œuvre s'élargit de plus en plus. Puis au début, elle s'était cantonnée dans l'accueil des enfants abandonnés. Puis la fondation de collèges, de plusieurs collèges pour les jeunes sans ressources, puis aussi de colonies agricoles. Mais bientôt s'ajoutent, écoutez bien ça, des instituts pour les orphelins, les abandonnés et les artisans, des hospices, des centres où on soigne un peu pour guérir de faiblesses, des villages de charité, de petits Cotolengo, comme à Turin, hein, des centres extraordinaires, Cotolengo, à Turin. Je ne sais pas si vous avez déjà visité ça, c'est inouï. Des œuvres post-scolaires, des léproseries, le service des paroisses et des sanctuaires, l'apostolat missionnaire, imaginez. Au point de départ, Don Orione n'a été aidé que par quelques prêtres et quelques clercs, mais petit à petit, la congrégation s'accroît. Et il faut ouvrir des maisons de formation, des noviciats. Alors auprès s'adjoignent des frères coadjuteurs, qui, en 1899, il y en a parmi eux qui se font ermites. Oui, des ermites, c'est absolument extraordinaire. Ce sont surtout des aveugles ou pas tout à fait aveugles. Puis en 1915, il y a les petites sœurs missionnaires de la charité. 12 ans plus tard, mon Dieu, il y a aussi les sacramentines aveugles, vouées à l'adoration perpétuelle par la prière incessante. Car Don Luigi sent la nécessité d'avoir dans son groupe, là, immense, des âmes priantes pour soutenir ceux qui se dépensent dans le champ de l'action, hein. Tout ça est absolument fantastique. Et bientôt, son œuvre dépasse les frontières de l'Italie. Puis en 1913, il n'a que 41 ans, les premiers missionnaires de sa congrégation partent pour le Brésil. Là, des maisons sont fondées, imaginez, en Palestine, puis en Argentine, en Uruguay, au Chili, puis aussi à Rhodes, en Pologne, en Angleterre, en Albanie, puis enfin aux États-Unis. C'est tellement incroyable. Luigi Orione, à deux reprises, en 1921 et en 1934, se rend en Amérique du Sud. Il y reste même la seconde fois durant près de 3 ans. Et il fonde en particulier le Piccolo Cotolengo Argentino, le petit Cotolengo argentin, pour l'Argentine, à propos duquel il disait « À celui qui y entre, on ne demande pas s'il a un nom, mais seulement s'il a une souffrance. C'est mieux, il me semble, que de lui demander s'il a une carte de crédit ou s'il peut payer d'avance. » Sa société reçoit en 1944 de la Congrégation des religieux au Vatican le Decretum Laudis, c'est-à-dire un certificat d'appréciation, si vous voulez. Et le, et même de louange, et le 20 novembre 1954, il reçoit l'approbation officielle du pape. Le matin du 28 décembre 1908, Luigi Orione a 36 ans, il y a un terrible tremblement de terre qui détruit les villes de Reggio, en Calabre, et de Messine. Deux villes importantes. Et ces deux villes importantes sont rasées, ainsi que les villages de la région. Il y a des milliers de morts, c'est terrible. 1908. Et aussitôt, Don Orione s'inquiète de son œuvre en Sicile à Noto, la première. Comme il n'a reçu aucune réponse au télégramme qu'il a envoyé, il part une semaine plus tard, en 1909, le 4 janvier. Et à Reggio, en Calabre, il aide, et puis il réconforte les blessés, puis les survivants. Il n'arrête pas. Dans le vent, la pluie, le froid, il est exténué de fatigue, il se dépense sans compter. Il recueille en particulier les orphelins, et après quoi il passe à Messine, où il fait la même chose. Au moment où il va regagner le Piémont, dans le nord, voici que Saint Pie X le nomme vicaire général de Messine, dans le sud, afin d'aider l'évêque trop âgé, ce qui n'est pas sans susciter des critiques et des calomnies encore. Toujours les critiques, les calomnies. C'est-il fatigant. Il occupe cette charge près de 3 ans. Et c'est pour lui un véritable martyr. Mais le pape le réconforte. Dites-lui d'avoir patience, c'est ce que fait dire le souverain pontife. C'est avec la patience que se font les miracles. N'oubliez jamais ça. C'est avec la patience que se font les miracles. Et là, le 30 janvier 1915, il y a l'autre tremblement de terre dont je vous ai parlé au début de l'émission, dans les abrus. C'est de nouveau Don Orione à court, vous le savez, déterrant des décombres les victimes, puis recueillant les orphelins qu'il envoie à Rome, dans une des voitures du roi, vous vous souvenez. Et à cette occasion, il travaille avec un autre saint, comme lui, admirateur de Don Bosco et de Cotolengo, c'est le bienheureux Luigi Guanella, dont je vais vous parler un jour. Et durant la Première Guerre mondiale, il recueille encore beaucoup d'orphelins. Et celui qu'autrefois les Capucins avaient cru physiquement incapable de suivre leurs règles, avant qu'il ne décide de se faire particulier, vous vous souvenez, bien, ce Don Orione manifeste au cours de son existence une résistance exceptionnelle. Il se contente parfois de 2 heures seulement de sommeil. Il peut sans fatigue rester occupé de très longs moments. Il s'occupe de ses nombreuses maisons, il les visite, il prêche très souvent. Il écrit aussi lettres sur lettres, privées ou collectives, à ses religieux, aux bienfaiteurs, aux anciens élèves. Il rédige encore des articles pour les journaux. Dans sa chambre ou au parloir, avec le sourire, il reçoit tous ceux qui désirent le rencontrer. Il a d'ailleurs à son service une mémoire de fer. Et lorsqu'il a vu une fois un élève, il ne l'oublie pas. C'est aussi un homme plein d'humour. Il aime rire. Il aime la musique. Il l'a fait enseigner à ses garçons par le maître, la Joseph Perosi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il lit assidûment la vie des saints. Mais il aime beaucoup également Dante, dont je vous ai fait une émission, j'ai fait une émission sur lui, et Manzoni. Et il veut que dans toutes ses maisons, il y ait, en plus de la Bible, la somme de saint Thomas d'Aquin, l'imitation de Jésus-Christ, puis la divine comédie, puis aussi les fiancés de Manzoni. Le bienheureux Luigi Orione, on peut l'imaginer, aime éperdument le Christ. Et à l'égard de la Vierge, il manifeste aussi la tendresse d'un enfant. Sa foi est capable d'accomplir des miracles. Le principal est peut-être de dissimuler toujours derrière un sourire les plus graves ennuis. C'est un miracle, ça. Oui, c'est pas facile. Il réclame vis-à-vis du pape une soumission totale aussi. Il est très soumis au pape. Mais cela n'empêche pas, lors de la crise moderniste, terrible crise, d'accueillir chez lui des prêtres suspectés de modernisme, parce que lui, il comprend. Il comprend qu'ils sont victimes d'un rigorisme épouvantable, le rigorisme de cette époque. Il sait aussi, par sa bonté, en remettre d'autres sur le chemin d'une pensée plus conforme. Aux âmes scrupuleuses, avec délicatesse et autorité, il rend la paix et l'équilibre, parce que c'est un prêtre aux idées non pas nécessairement larges, mais qui n'est pas scrupuleux. Il possède des vues larges. Il ne veut que des pénitences raisonnables. C'est dans ce sens-là qu'il serait large. C'est ce qui lui faisait dire du supplice qu'endurait Benoît Labre de la part des poux qui lui ravageaient le corps. C'était un saint et un grand saint. Pas à cause de cela, mais malgré cela, disait-il. Il n'était pas en faveur des poux, lui. Il exigeait des siens, d'ailleurs, une absolue propreté. En revanche, il pratique la pauvreté de façon héroïque. Il veut de la sorte laisser Dieu pleinement jouer son rôle. Sa devise, Caritas Christi Urget Nos, c'est la charité du Christ doit nous saisir et nous... Il la traduit d'ailleurs ainsi, « Je veux me consumer d'amour pour Dieu et le prochain, mais surtout pour les pauvres et les abandonnés. Je veux être caché dans le cœur de Jésus crucifié. Mais je veux aller par les routes et les places avec le feu de la charité. » Il veut de même faire de sa congrégation un organisme saint et fort, animé d'une piété brûlante, d'un dévouement total au prochain et simplement soumis à l'Église. Il faut insister sur sa dévotion à Marie. Aux jeunes, il recommande de réciter au moins un Ave Maria le matin, un le soir avant de se confesser, puis un avant de faire un examen de conscience, et un avant chaque action importante. Si quelqu'un vient le trouver puis lui expose des difficultés en apparence insurmontables, il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas discuter, il est surprenant, ce prêtre. Il dit tout simplement « Agenouillons-nous et récitons ensemble un Ave Maria et vous verrez que tout ira bien. » Mais à ses yeux, Marie doit surtout inspirer à lui-même et à ses collaborateurs l'esprit de dévouement total au prochain. Il disait souvent, « Donne-nous, Marie, une âme grande, un cœur magnanime, qui rejoigne toutes les douleurs et toutes les larmes. Fais que nous soyons vraiment ce que tu veux, les pères des pauvres. Que toute notre vie soit consacrée à donner le Christ au peuple et le peuple à l'Église du Christ. » En novembre 1926, une très grave maladie avait déjà mis en danger la vie de Don Luigi Orione. En 1939, Don Luigi est à Alessandria pour la fondation d'un nouvel institut, et soudain, le conducteur de l'auto le voit pâlir et s'affaisser sur son siège. Il arrête aussitôt la voiture et se précipite dans un café pour chercher du cognac, mais Don Orione le refuse. Il dit plutôt « à la maison, allons à Tortona ». Et un médecin le fait transporter à l'hôpital d'Alessandria où chacun s'empresse autour de lui, mais au docteur, il déclare « Vous savez, je suis piémontais, j'ai la tête dure. » Et de fait, après cette crise d'angine de poitrine, il se remet puis reprend son activité, fait de la correspondance, des visites, des voyages chaque semaine à Gênes et à Milan, dans le nord de l'Italie, là, où il habite. Et désormais, pourtant, là, on l'accompagne, on ne veut pas le laisser seul. Et lui-même a l'impression que la mort arrive, et durant la retraite de cette année-là, il dit à ses fils, « C'est peut-être la dernière fois que je vous parle. » Puis là, le 9 février 1940, à 67 ans, une nouvelle crise. Alors, il réclame l'extrême-onction, le sacrement des malades, puis la Sainte Communion, et on lui donne ses sacrements. Mais il se remet encore, puis le 15 février, donc la semaine suivante, il recommence à dire la messe. Et son médecin trouve que le climat de Tortona ne convient pas. Il lui dit d'aller à San Remo, sur la Riviera. Alors, il y va au nom de l'obéissance, et le 9 mars, il part donc vers sa nouvelle destination. Puis là, le 12 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui, il célèbre la messe pour la dernière fois. Puis le soir, alors que l'infirmier se prépare à lui faire une piqûre, il déclare « Je m'en vais. Oui, je m'en vais. » Puis il murmure doucement et avec beaucoup de douceur, beaucoup, beaucoup de douceur, « Jésus. Jésus. » Les yeux levés au ciel, sans un râle, il rend son âme à Dieu. Il avait un peu moins de 68 ans. Don Orione est enseveli une semaine plus tard, le 19 mars, dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde à Tortona. 23 ans plus tard, en 1963, c'est Jean 23 qui signe l'introduction du procès de canonisation. Paul VI proclame plus tard l'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu. Puis le 26 octobre 1980, c'est Jean-Paul II qui le béatifie. Et écoutez bien ça. Son corps intact, en particulier son visage, repose dans le sanctuaire de Tortona. Un jour, Luigi Orione conduit de Rome à San Remo un adolescent de 16 ans C'est le futur Ignace Iosilone dont il a été question au début. Vous savez, j'ai lu un texte de lui, cet écrivain. Le garçon qui l'a vu agir pour recueillir des enfants, là, au milieu des décombres, après le tremblement de terre, là, dans les abruzes. Il va raconter plus tard, il fait une très belle description de ce saint. Il dit, ce qui, de lui, m'a le plus impressionné, c'est la calme tendresse de son regard. La clarté de ses yeux avait la bonté et la clairvoyance qui se retrouvent en certaines vieilles paysannes qui ont patiemment subi toutes sortes d'épreuves et qui, de ce fait, comprennent ou devinent les peines les plus secrètes. À certains moments, j'avais l'impression qu'il voyait en moi plus distinctement que moi-même, mais ce n'était pas une impression désagréable, au contraire. Où fait le regard d'un saint? C'est quoi, si c'est pas la prolongation parmi nous du regard même du Christ? C'est avec la bonté des yeux de Jésus que Don Luigi Orione, ce bienheureux, a su maintenir les siens toujours ouverts, hein, sur les misères de ce monde. Et sommes-nous nous-mêmes conscients de la misère autour de nous? Qu'est-ce qu'on en fait? Sommes-nous dévorés par toute cette souffrance qui n'attend que nos bras, notre écoute et aussi nos dons généreux?